Parlons maintenant de votre panier d'épicerie et d'une potentielle augmentation due aux coûts reliés à la consigne élargie. Ce matin, on apprend que les Québécois pourraient payer près de 300 millions de dollars de plus par année pour leur panier d'épicerie parce que on a l'intention d'instaurer une consigne beaucoup plus élargie que celle qu'on connaît actuellement et qui toucherait entre autres pinte de lait, les contenants de jus également, les bouteilles d'eau, bouteilles de vin qui vont être progressivement consigné à partir de 2022. Évidemment, là, on est dans les possibilités. C'est pas fait demain matin, on en discute. Mais en gros, on pourrait s'attendre à ce que, par exemple, les Québécois doivent payer en plus 25 cents quand on achète une bouteille de vin ou de spiritueux, 10 cents de plus pour chaque bouteille d'eau ou de pinte de lait. Bref, c'est un peu ce que le gouvernement Legault veut faire en étendant cette consigne à tous les contenants en verre, en métal, en carton pour tous les formats de 100 millilitres à 2 litres. Il y a une commission parlementaire en ce moment là, qui s'occupe de ça. C'est donc le moment d'en discuter aussi ensemble. Vous avez peut-être entendu ce matin le Conseil canadien du commerce de détail qui dit un instant. Ça sera pas évident du tout. Ça a des effets pervers, cette mesure-là. Bref, je voulais qu'on en discute ensemble parce que si je vous dis que ça va vous coûter plus cher à l'épicerie à cause de la consigne, êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord pour payer plus, finalement, pour être un peu plus écologiste? Je vous rappelle qu'on est en pleine semaine québécoise de réduction des déchets. C'est jusqu'au 25 octobre. C'est organisé par Zéro Déchet Québec. Karel Ménard est justement porte-parole, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour, Karel.
Oui, bonjour Isabelle.
Avec nous également Amélie Côté, qui est spécialiste en gestion des matières résiduelles. Son expertise touche justement les enjeux entourant la consigne et elle travaille avec la coopérative Incita. Bonjour Amélie.
Bonjour Isabelle.
On va parler du guide que vous avez préparé, un guide pour démystifier les idées reçues sur l'utilisation justement des contenants réutilisables en temps de pandémie. Alors, on est vraiment dans le sujet, c'est d'actualité aujourd'hui. Je commence avec Karel parce que quand les gens se font dire ça va coûter 10 cents de plus maintenant 2022 pour des contenants de jus ou en carton, des contenants de lait, par exemple. Ça, c'est nouveau. Ce serait nouveau. Puis même 25 cents pour tout ce qui s'appelle bouteilles, cartons, verres. Ça fait extrêmement réagir. On va voir ce que les auditeurs en pensent, là. Ils vont nous appeler au 514-790-9850. Mais on peut s'attendre à ce que les gens commencent par dire, ben là, si c'est ça, moi, ça me tente pas vraiment. Karel, comment vous voyez ça, vous?
Ben moi je trouve ça déplorable de la part du CCCD là, du Conseil canadien du commerce au détail de sortir cet épouvantail encore parce qu'aujourd'hui il faut le savoir qu'on commence une commission parlementaire justement sur l'avenir de la consigne. L'annonce a déjà été faite en janvier dernier par le gouvernement de Monsieur Legault, par Monsieur Legault en personne. Donc là, c'est sûr que les détaillants et les producteurs, ceux qui mettent en marché des contenants, sont pas d'accord avec ça. Faut comprendre qu'une consigne, c'est pas une taxe, c'est de l'argent qui est remis au consommateur. Donc on le paye à l'achat, mais on le retrouve intégralement. Et il faut savoir aussi qu'actuellement, on paye des écofrais sur les bouteilles qu'on achète dans les magasins et qui ne sont pas les écofrais retournés au consommateur. Donc cet écofrais normalement devrait disparaître. Donc ultimement, même peut-être que les consommateurs pourraient avoir une baisse à l'achat des bouteilles qu'ils achètent parce que les écofrais n'existeraient plus et s'ils retournent leur contenant, ben la consigne va leur être retournée intégralement. Donc, faut faire attention aux chiffres qu'on nous donne. Le 300 millions, je sais pas d'où ça sort. Si les détaillants ne veulent plus de la consigne, ben qu'on la sorte des dépanneurs et des magasins d'alimentation. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Quelqu'un d'autre va prendre en charge les contenants consignés et ils seront bien contents parce que ça va attirer des clients. Mais là, il y a toujours l'épouvantail de ça va coûter cher et ainsi de suite parce que simplement, ils veulent pas que les producteurs, ceux qui mettent en marché des contenants consignés, deviennent responsables de leurs contenants. Actuellement, c'est pas le cas. La consigne va les rendre responsables. Donc, tout est un enjeu de responsabilité. Il y en a qui veulent pas être responsables des produits qu'ils mettent en marché. Ben, c'est le débat dans lequel on est aujourd'hui.
Mm-hmm. Donc, ça, c'est la réaction à chaud à la suite là, de ce gros chiffre, hein, 300 millions, oui. Qui nous préviennent d'ailleurs déjà. Là, les détaillants ont dit, c'est sûr qu'on va refiler la facture aux consommateurs. On n'aura pas le choix. Ça marche comme ça. Amélie Côté, ta réaction, Amélie, là, par rapport justement à ce que disent les détaillants en alimentation?
Bien, elle s'approche de celle de Carrel dans le sens où, effectivement, en ce moment, on paye déjà des coûts associés à la collecte sélective. Donc, les entreprises qui mettent en marché tous les contenants emballages qui sont récupérés par le système qui fonctionne actuellement vont déjà contribuer à la collecte sélective municipale. Maintenant, ils vont contribuer à un système de consignation. Ça va être autre chose. Puis, quand on parle de la valeur de la consigne, bien, c'est un montant qui est retourné aussi quand on ramène les contenants. Donc, ce qui est démontré, c'est que quand on augmente une valeur d'un contenant consigné, puis en ce moment, cette valeur-là n'a pas augmenté depuis les années 80, là, donc 5 sous en 1984, c'est pas la même chose que 5 sous en 2020, ça va avoir une incidence positive, donc ça va augmenter le taux de retour des contenants consignés, donc il y a un impact qui est positif. Donc, c'est pas un coût qui est exact en ce sens-là, parce que le taux de récupération augmente, ça vient se déduire aussi de la facture d'épicerie.
Ouais. Carrel Ménard, justement, là-dessus, si on faisait le point là, sur la consigne, en ce moment, quelle est la réalité là, en ce qui concerne la consigne?
Ben, la consigne est un... faut comprendre, c'est pas une opposition entre consigne et collecte sélective. La consigne, comme le bac de récupération, ce sont deux modes de récupération. Les deux nous permettent de faire des choses avec les contenants ou les matières récupérées. La consigne, vu qu'on récupère les contenants ou la matière de façon séparée, dans un flux distinct, là, comme on appelle, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On est sûr que la matière récupérée va être recyclée à 100 %. Le verre consigné, la bouteille de vin, va être recyclé soit en bouteille de vin, soit on peut faire de la laine minérale ou de l'abrasif ou d'autres usages, de la valorisation, si on veut, avec la bouteille de vin, parce que la consigne nous permet de faire tout ça, recyclage, réutilisation même ou valorisation. Alors que la collecte sélective, si on parle du verre encore, ne nous permet pas de recycler la bouteille de vin parce que la bouteille est contaminée avec d'autres matières qui se retrouvent dans le bac de récupération. Donc, majoritairement, l'usage qu'on fait des bouteilles de vin qui sont récupérées par le bac actuellement, c'est dans les dépotoirs. Donc, on fait des fonds de chemin, on fait du recouvrement dans les dépotoirs. Donc, on ne parle pas d'enfouissement ou d'élimination, mais dans les faits, c'est là que la bouteille de vin finit sa vie utile. Donc, pour nous, on dit que c'est une aberration d'avoir un système de récupération, le bac de récupération, pour une matière comme le verre, qui est complètement inefficace. Donc, faut avoir un autre système de récupération. La consigne, c'est pour ça qu'on fait la promotion de la consigne sur les bouteilles de vin depuis des années. C'est pour s'assurer que la matière qu'on récupère soit effectivement recyclée sous forme de verre. Tu sais, qu'on donne une plus-value, une valeur ajoutée à la matière. Actuellement, là, on nous fait des accroires depuis des années que tout va bien avec le bac de récupération. Non, le gouvernement, actuellement, il a compris. C'est pour ça qu'il réforme la consigne. Parce que, comme le dit Amélie, ça fait depuis 35 ans que ça n'a pas été changé. Et aussi, il réforme la récupération, la collecte sélective. Donc, actuellement, la commission parlementaire à Québec, c'est pour traiter de ces deux enjeux-là. C'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. C'est sûr qu'ils sortent le jour même d'une commission parlementaire des gros chiffres dans les médias, puis ça fait réagir. C'est normal. Mais écoutez, c'est une tactique que moi, je trouve un petit peu déplorable parce que c'est pas la première fois que ça arrive dès qu'il y a une commission parlementaire ou quelque chose comme ça.
Non, mais c'est clair que
peur au monde.
Ben oui, les détaillants, on l'a compris, veulent pas gérer ça, mais même la SAQ, Carrel et Amélie, n'a pas voulu gérer les bouteilles pendant tellement longtemps. Puis on nous a dit aussi, de toute façon, il n'y a pas de débouché pour le verre. Peut-être Amélie Côté là-dessus, parce que c'est vrai que c'est comme une espèce de patate chaude. On dirait que personne veut gérer ça, là.
Ben, c'est un enjeu controversé, effectivement, puis c'est pour ça aussi qu'il y a quand même un délai qui est prévu entre le moment où ça a été annoncé, l'élargissement de la consigne, puis la mise en œuvre, qui est quand même à l'automne 2022, faut le rappeler, donc ça laisse quand même le temps à l'industrie de s'organiser autour de ça, mais il va y avoir un organisme qui regroupe tous les producteurs, en fait, puis qui va développer un système probablement de points de dépôt, donc il y a des bonnes chances que ça sorte de chez des épiceries, là, comme le mentionnait Carrel. Et puis, quand on parle du verre, il y a un autre aspect qui est intéressant puis qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a moyen de développer des systèmes où on va réemployer les contenants de boissons. Puis ça, c'est sûr que c'est ce qui a le moins d'impact environnemental, un peu dans la lignée justement des pratiques sanitaires en alimentation pour le réemploi dont on a parlé au début. Donc, c'est aussi l'occasion de développer des systèmes qui sont plus en lien avec l'économie circulaire qu'on veut valoriser plutôt que l'économie du prêt-à-jeter, parce que les contenants de boissons, c'est quand même des contenants à usage unique. Puis, comme on le mentionnait, on est dans la semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, l'objectif, c'est toujours de réduire à la source ce qu'on produit comme type de contenant. Mm-hmm. Puis, dans ce sens-là, l'élargissement de la consigne, mais ça peut permettre de développer des alternatives qui sont plus innovantes en termes de contenants aussi, pour s'assurer qu'ils soient effectivement réutilisés quand c'est possible, puis recyclés dans tous les cas autrement. Donc, quand on trie à la source, c'est sûr qu'on augmente aussi la qualité des matières qui sont récupérées. Donc, il y a plus de chances que ça soit réintégré dans un processus de fabrication. Donc, ça a plus de valeur. Pour moi, c'est une solution qui est super intéressante aussi en ce sens-là.
Oui, la consigne. Ouais. Après, est-ce que les gens sont prêts à payer pour de la consigne? Robert, bonjour. Bon, Robert?
Vous m'entendez?
Oui, là, on vous entend, Robert. Allez-y, okay. Merci.
Écoutez, déjà, en Ontario, les bouteilles de vin sont consignées. On paye 20 sous la consigne déjà en partant. Si on regarde au niveau des produits, ici, là, je me promène bien souvent, moi, quand c'est le temps de mettre notre recyclage, là, combien de personnes qui sont qui sont pas riches, là, qui vont fouiller dans nos bacs pour récupérer nos fameuses canettes,
ouais,
que les gens prennent pas. Je dirais que en faisant des consignes un peu partout comme ils veulent faire, si les gens veulent pas récupérer leur argent par eux-mêmes, c'est d'autres personnes qui vont le récupérer, qui vont peut-être pouvoir survenir à leurs besoins en même temps. Si on parle maintenant de recyclage au niveau du verre, regardez la consigne au niveau de la bière. Si vous avez des bières de couleur, les bouteilles sont brunes ou encore elles sont sont transparentes.
Mm-hmm.
Il y a du verre qui se recycle. Le transparent va mieux se recycler encore que certaines bouteilles, ou surtout au niveau du vin, là,
ouais,
de couleur. Donc, si on fait un tri comme il faut, on pourra récupérer des bouteilles. Et je me demande la question qui tue, là, l'usine d'embouteillage, là, les usines qu'on a ici, est-ce qu'on pourrait pas arriver puis donner une règle au niveau de la bouteille, dans le sens qu'on pourrait peut-être faire une deux formes de bouteilles différentes à la limite, là, OK, mais avec soit transparente ou encore de couleur, mais qui peut se recycler, pour qu'on puisse réutiliser ces mêmes bouteilles-là, comme ils font avec la bière. Les,
ouais,
bouteilles de bière, je pense, sont réutilisées au moins 10 fois.
Mm-hmm.
Donc, pourquoi pas?
Merci, Robert. Écoutez, c'est des bonnes idées. Mais Karel, là-dessus, là, sur imposer, par exemple, deux seuls modèles de bouteilles aux fabricants, je suis pas sûre que ça soit réalisable. Karel Ménard?
Oui, seule la consigne, la récupération par la consigne permet ça. Comme le dit Amélie juste avant, la réutilisation est meilleure que le recyclage, si on veut. Il y a beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Et la consigne, si on mettait en marché des bouteilles qui étaient plus durables, uniformes au niveau du contenant, là, de la forme, on pourrait très bien avoir du vin embouteillé au Québec dans des bouteilles réutilisables. Et pas juste le vin produit. Il ne faut pas oublier que environ 20% du vin qu'on consomme au Québec, là, provient de l'extérieur, là, d'autres pays, mais il est importé dans des cuves en acier et embouteillé au Québec. Là, on parle d'entre 40 et 50 millions de bouteilles par année embouteillées au Québec. Et ça, on
pourrait une bouteille sur cinq de, oui, vin qu'on boit ici au Québec, qui est vendu,
absolument,
à la SAQ,
oui,
est embouteillé au Québec.
Oui, même si le vin est produit, okay, en Argentine ou ailleurs, il ne vient pas dans des bouteilles par bateau, il vient souvent dans des grosses cuves et c'est embouteillé par quelques usines là, okay, autour de Montréal. Et ça, la plupart du vin qui se dévisse, là, c'est-à-dire avec les petits bouchons en métal,
ouais,
ou le vin de dépanneur, c'est du vin qui est embouteillé au Québec, même s'il vient d'Espagne, de France.
Mais est-ce qu'on pourrait imposer un ou deux modèles deux modèles?
Absolument. Si le vin est embouteillé ici, pourquoi pas? Ça veut dire comme la bouteille de bière. C'est-à-dire, pour qu'on puisse réutiliser un contenant, une bouteille, il faut que vin ou la bière soit embouteillé ici.
Je comprends, mais là, vous allez avoir des gens qui vont dire, ben oui, les embouteilleurs québécois, là, c'est plus juste le Conseil canadien que vous allez avoir sur le dos. Ça va être les embouteilleurs québécois qui vont dire, ben écoutez, nous, on est pénalisés, ouais, par rapport aux belles bouteilles qui nous arrivent de l'étranger.
Les brasseurs de bière, ils ne perdent pas de l'argent avec ça, avec les bouteilles réutilisables, au contraire, parce que la bouteille, comme le dit Robert...
Mais parce que c'est fait ici, Karen, ouais.
sont réutilisés plusieurs fois. Donc, il y a une économie d'échelle en bout de ligne. Mais sauf que là, comme le dit Amélie, on vit dans une société de consommer jeté. Donc, c'est moins cher à l'achat. C'est le consommateur qui le paye en bout de ligne parce qu'il achète puis il jette. Mais si on changeait un petit peu cette façon de penser ou de fonctionner, on serait tous gagnants. Puis c'est ça qu'on veut avec la réforme qui se passe au niveau de la consigne, là. Oui, allons-y pour des bouteilles réutilisables au niveau du vin embouteillé ici au Québec, là. Ouais. C'est tout à fait possible. Il faut juste de la volonté.
Ouais. On va s'arrêter ici. Nos lignes sont pleines. On va donner la parole à nos auditeurs tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde. Alors, il y a une commission parlementaire aujourd'hui qui est chargée d'étudier un projet de loi, le numéro 65, qui s'intéresse à la consigne élargie. Ce sont des discussions, là, puis ça part la discussion solide parce que déjà, le Conseil canadien du commerce de détail est pas tout à fait d'accord avec la façon dont ça s'enligne. En tout cas, ils veulent enligner la discussion pour faire croire au monde que ça va leur coûter plus cher. C'est sûr que ça va coûter un peu plus cher. Le Conseil canadien est pas dans le champ complètement, à savoir, est-ce que ça va coûter 300 millions? Bon, eux, ce matin, ils ont expliqué à mon collègue Paul Arcand comment ils avaient fait le calcul. En même temps, c'est sûr que mes invités tout à l'heure, Karel Ménard, du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, et Amélie Côté, qui est experte justement en consigne et spécialiste en gestion des matières résiduelles, nous le disait, ça fait depuis 1984 qu'il n'y a pas eu au Québec là, de révision là, de la consigne et des lois entourant la consigne. Alors, c'est sûr, Amélie disait tout juste, tout à fait bien tout à l'heure, Saint-Saëns en 84, c'est pas Saint-Saëns en 2020 ou en 2022 quand ça va entrer en vigueur. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus pour qu'on consigne bien vos objets de consommation? Jusqu'à quel point êtes-vous capable? Élastique, là, vous pouvez l'étirer jusqu'où? Martin, vous en pensez quoi là, de cette consigne? Êtes-vous capable de payer un peu plus?
Oui, je serais capable de payer un peu plus, mais ma question, c'est quand j'achète une canette à l'épicerie, je paye 5 sous. Moi, je vais pas dans les machines, là, je trouve ça... j'ai pas le temps. Ouais. Je trouve ça c'est dégueulasse, puis j'ai pas le temps. Bon. Mais le 5 sous, moi, je les mets au recyclage, OK? Ouais. Fait, mettons, je mets pour 200 $ de canettes au recyclage par année. Ce 5 sous-là, qui hérite de ce 5 sous-là? Parce que je l'ai mis au recyclage, je l'ai payé. À qui va le 5 sous? Moi, puis je l'ai
pas. Vous voulez dire ceux qui récupèrent les canettes dans votre recyclage? Bonne question. Qui veut réagir à ça? Amélie ou Karel là-dessus?
Moi, je peux répondre.
Vas-y, Karel, ouais.
Ben, il y a trois possibilités. Premièrement, soit le 5 sous est perdu et le 5 sous que le monsieur paye va aller dans un fonds qui va servir à faire de la sensibilisation et financer le système. Donc, le système de consigne se paye avec les contenants dont le montant de la consigne n'est pas réclamé. Donc, ça, on parle d'environ 25 % des contenants qui ne sont pas réclamés. Donc, ça va servir à financer le système. Il y a certains centres de tri qui déclarent, qui sont autorisés à déclarer les contenants consignés qu'ils récupèrent et eux vont toucher le 5 sous. Donc, ils agissent, si on veut, comme un dépanneur ou un magasin d'alimentation. Donc, ils vont récupérer le montant de la consigne parce qu'ils récupèrent les contenants consignés. Ou, ça peut être en troisième lieu, les valoristes, c'est-à-dire les personnes qui, justement, récupèrent les contenants consignés soit dans les poubelles ou dans les rues ou parfois dans les bacs de récupération pour faire un revenu d'appoint. Donc, il y a ces trois possibilités-là où l'argent de la consigne non réclamée par le consommateur peut aller.
Puis là, avec le nouveau système, ça irait où?
Ça serait la même chose. Ça serait la même chose, sauf que le montant serait plus élevé. À 10 sous, moi, je trouve que ça commence à être important. C'est ça l'idée, parce que effectivement, on le dit depuis tantôt, que 4 sous à 5 sous en 84, ça équivaut à environ en 11 sous. Donc, on fait juste une mise à jour, une mise à niveau du montant de la consigne. Mais à 10 sous, moi, si je vois une canette par terre, ça se peut que je la ramasse, là, parce que ça commence à faire de l'argent.
De toute façon, Karel, en bon citoyen écologique, si tu vois une canette par terre, il faut que tu la ramasses.
Écoute, Isabelle, même si la bouteille n'est pas consignée, je la ramasse.
Une
bouteille d'eau, je la mets dans le bac de récupération.
Ben oui,
et une bouteille de verre, je vais la porter dans un conteneur pour le verre dédié. Ouais. Donc, je suis sûr que ça va être recyclé dans ce cas-là. Non, t'as essayé de m'avoir. Là,
mais... C'est ça, effectivement. Gentiment, toutefois. Gilles est avec nous. Bonjour, Gilles.
Bonjour, ma chère, et à tout votre monde. Mm-hmm. Moi, j'ai 75 ans, puis je dis que les bouteilles, là, ça devrait être chargé. Ils veulent nous autres avec le petit prix. Là.
Ouais.
C'est simple, t'achètes une bouteille de liqueur qui coûte 2,37 là. T'as une pièce de dépôt. Elle va revenir jouer le jeu.
Ah oui, OK. Vous dites, on y va pas avec...
Les canettes 50 cents, ils vont revenir. C'est simple de même. Avant, là, on avait des contenants. Ils veulent faire disparaître les attaches de plastique qu'on transporte les six-packs.
Ouais.
C'est simple. Ils fassent des petites caissettes, comme on avait avant, des grosses caisses, mais c'était divisé par quatre. C'était six bouteilles au contenant. Puis on ramène notre carton avec nos six bouteilles. Et ils sont capables de faire ça en plastique rigide. Tu peux, ça va être recyclé. Ils ont tout ce qu'ils vont avoir à faire, c'est passer à la vapeur, puis les rembouteiller les bouteilles, puis remettre les contenants dans le petit bac.
Ben, merci pour ces suggestions, Gilles. Merci bien. Jonathan, êtes-vous d'accord pour payer plus pour la consigne élargie?
Ben, moi, oui, je suis 100% d'accord avec ça. Puis même que je trouve que le prix suggéré n'est pas encore assez élevé. Mm-hmm. C'est censé être un incitatif pour que les gens, à place de mettre ça dans le recyclage ou dans la rue, aillent le porter à un centre de distribution, à un centre de récupération. Puis, ben, je trouve que l'incitatif à 10 sous, 20 sous, c'est pas assez. Puis, par-dessus ça, en plus, je trouve que les gens, en général, si on parle beaucoup de les changements climatiques et tout le tralala qui vient avec, mais on est de mauvaise foi. Parce que là, on apporte des solutions. Puis, ben là, je sais pas, ça va demander plus de temps pour faire ça. Là, les différents organismes que vous avez nommés, ben là, eux autres,
Ça va coûter plus cher aussi.
Je suis d'accord, mais à un moment donné, si on veut faire une différence, il faut être prêt, un, à mettre un petit peu de temps, puis deux, à être prêt à peut-être piger un petit peu dans le portefeuille. C'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, mais il va falloir faire des choix aussi à ce niveau-là.
C'est sûr, mais moi, j'entends déjà les gens des organismes, par exemple, de personnes démunies. Je pense aux FRAPRU, aux organismes qui luttent contre la pauvreté. Puis je peux vous dire, je suis en lien avec nombreux d'entre eux. Et augmentation de 10 cents de la pinte de lait parce qu'elle sera dans un contenant qui sera désormais consigné. Ils vont sauter, là. Il faut le savoir. Ils vont dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. 10 cents de plus pour toutes les familles québécoises qui sont dans le besoin. C'est énorme, là.
Mais ça nous est retourné, au final. Il faut juste prendre le temps d'aller le porter. Tu sais, si on ne prend pas le temps de le faire, c'est un petit peu notre responsabilité puis notre problème, au final, si on ne le fait pas. Moi, je pense que ce que le gouvernement essaie de faire, c'est une responsabilisation de la population. Si la population ne veut pas le faire, ben là, à un moment donné, arrêtons de parler des changements climatiques puis jouons avec les conséquences qui viennent avec.
Je comprends. Merci, Jonathan, de votre témoignage. Merci bien. Amélie, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens là, qui vont dire, ben les gens, il y a certaines couches de la population qui sont tellement occupées à survivre, pas sûrs qu'il y ait le temps non plus d'aller consigner leur contenant de lait là, qu'ils vont avoir payé 10 cents de plus.
Généralement, ces personnes-là vont avoir plus tendance à ramener leur contenant consigné parce que justement, ça va représenter une plus grosse proportion de leurs investissements pour l'épicerie. Donc,
tu penses que c'est pas un enjeu, ça? Pour toi, ça sera pas un enjeu?
Ben, c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération, puis je suis sûre que ça va faire partie des discussions lors de la discussion parlementaire, mais je pense que toutes les interventions qu'on vient de recevoir des personnes qui ont appelé aujourd'hui à l'émission démontrent bien qu'il y a un appui citoyen qui est super important. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a des regroupements qui militent en faveur de l'élargissement de la consigne. C'est reçu quand même très positivement dans la population. Puis la question de la valeur de la consigne, pour revenir sur ce que monsieur a dit, il y a deux interventions, c'est des montants qui sont déterminés en ce moment, mais qui pourraient être amenés à changer aussi. Donc, c'est sûr qu'un 25 sous sur une bouteille de vin, ça peut ne pas sembler tant que ça non plus. Quand on achète une bouteille de vin qui vaut 10, 15 ou 20 $ ça va être déterminé aussi par la suite, la valeur de la consigne. Donc, ça va être peaufiné, ces choses-là. Mais
le 10 cents puis le 25 cents, c'est sorti d'où, ça? Est-ce que c'est dans des véritables propositions?
Oui, bien, Karel pourra le préciser, mais il me semble que c'est dans le projet de loi.
C'est dans l'annonce qui a été faite en janvier dernier par le gouvernement. C'est 25 sous sur les bouteilles de la SAC, là, vin et spiritueux, et 10 sous pour tous les autres contenants de boissons. Aussi, un petit peu pour faire du pouce sur ce que dit Amélie, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à payer 1 $ pour une bouteille d'eau alors qu'on a de la très bonne eau qui sort du robinet dans la maison. C'est un luxe.
Ça dépend où tu restes encore là, mais bon.
Non, je suis d'accord, mais il y a toujours des exceptions. Mais c'est ça que je trouve déplorable, c'est-à-dire on va toujours nous sortir le petit cas quelque part qui... Oui, c'est sûr que c'est peut-être pas applicable mur à mur. Il va toujours peut-être y avoir des gens qui vont payer un petit peu plus. Mais pour la grande, grande majorité des gens, il va avoir des avantages. Et comme je l'ai dit tantôt, on paye déjà un montant, un frais caché qui ne nous est pas retourné lorsqu'on achète une bouteille d'eau ou une bouteille de vin. Ce montant-là, normalement, si les commerçants, les producteurs sont honnêtes, devrait disparaître s'il y a une consigne. Et ultimement, comme je dis, le prix pourrait même descendre à l'achat. Donc,
OK, on va revenir là-dessus. Ça, il faut que tu nous expliques ça après la pause. Et puis, on a d'autres auditeurs qui veulent intervenir. Donc, on fait un autre petit bloc sur ce sujet. À tout de suite. Il y a Suzanne qui écrit que son épicerie reprend pas les bouteilles depuis des mois. Qu'en sera-t-il avec les nouveaux tarifs sur différents produits? On va-tu rester pris avec ça? Pour combien de temps? Dis-moi, j'ai un petit 3,5. J'ai pas vraiment la place pour stocker tout ça. On a José qui est avec nous. La consigne élargie, José, puis payer un petit peu plus pour ça. Vous êtes en faveur?
Oui, définitivement. Moi, étant une petite une PME, quand on a ouvert mon entreprise en 2015, on travaillait avec des bouteilles de verre foncé et c'était vraiment important pour nous de pas gaspiller ça. Donc, ce qu'on a fait à partir du début, c'était qu'on donnait un escompte aussitôt qu'ils nous rapportaient les bouteilles, on donnait un escompte sur le remplissage. Donc, c'est sûr qu'en 2015, on était un petit peu regardé bizarrement, mais de plus en plus, ça a augmenté au moins de 20% dans les deux, trois dernières années. Les gens rapportent les bouteilles et sont vraiment, ils apprécient beaucoup le fait qu'on rapporte les bouteilles, justement.
Et l'escompte doit jouer aussi, là, j'imagine.
Oui, c'est ça. On donne quand même un 10% d'escompte sur le remplissage. Donc, les gens rapportent les bouteilles. Nous, on la réutilise, on l'assigne, tout ça. Et on s'en sert. Donc, c'est une économie pour nous aussi en même temps.
Intéressant, ça. Merci beaucoup, José. Merci bien. Yannick est avec nous. Bonjour, Yannick.
Bonjour. J'ai une question. Moi, j'habite sur la Rive-Nord, dans les municipalités Saint-Eustache-Mirabel.
Ouais.
Puis autour de nous, on fait affaire avec le centre de tri Tricentris, qui, à ma connaissance, est un des centres de tri les plus performants. Tricentris récupère le verre et produit une poudre de verre qu'on appelle le Verox, qui est réutilisé dans du béton, dans des bancs de parc, etc. Tout ce qui est avec le béton, qui est utilisé aussi dans certains asphaltes. À Saint-Eustache, on a fait des bouts de trottoir avec du Verox. C'est des bouts de trottoir qui vont durer plus longtemps qu'avec de la poudre de ciment normale. Je voudrais savoir si ce procédé-là était beaucoup plus étendu à d'autres. Je pense pas qu'on aurait besoin de consignes encore aujourd'hui. C'est sûr que l'idéal serait la réutilisation comme votre dernière intervenante, mais j'aimerais ça entendre vos
Ben oui, intéressant. Karen Ménard là-dessus?
Ben, la consigne n'empêche pas la transformation du verre en poudrette de verre, au contraire, c'est-à-dire on mélange recyclage et récupération, consigne versus recyclage. La consigne nous permet de faire du Verox, puis s'il y a une demande pour le Verox, parce que actuellement c'est toujours des projets pilotes, hein, des bouts de trottoir, des bouts de ci, des bouts de ça, donc, mais s'il y a vraiment un marché pour le Verox, pourquoi pas, ça veut dire si on peut trouver d'autres utilisations au verre que de la refonte ou de la réutilisation, on a besoin de tout. Toutes les formes de valorisation, de recyclage ou de réutilisation qu'on peut faire avec le verre, mais pour s'assurer qu'on puisse être capable de faire tout ça, la consigne est un mode de récupération le plus approprié parce que le Verox ne peut pas se faire avec du verre contaminé. Donc, la consigne nous permet justement d'avoir un verre qui est exempt de contamination. Et avec ça, pourquoi pas du Verox? Oui, pourquoi pas de la refonte pour faire d'autres bouteilles? Et pourquoi pas de la réutilisation? La consigne nous permet de faire tout ça. Donc, c'est pas en opposition. Au contraire, la consigne nous permet justement de faire de la poudrette. Notamment.
Mm-hmm. Et puis c'est intéressant, je trouve, comme idée. Amélie Côté, je lisais ce matin, là, vous avez, entre autres, avec plusieurs organismes qui sont préoccupés par la réduction à la source des déchets, vous avez publié un guide de bonnes pratiques sanitaires en alimentation et pour la gestion des contenants autres objets réutilisables. Évidemment, c'est tellement complet, ce guide, que j'ai envie de te dire, Amélie, on prendra l'occasion d'en reparler plus largement puis de poser des questions aux gens. Mais sur la notion de la consigne, peut-être juste rappeler les grandes lignes, puisqu'on est au début de cette commission parlementaire, pour que les gens comprennent bien l'enjeu.
Oui, ben en fait, ce guide-là, on le produit avec la vague, donc le Café-Restaurant pour l'environnement, le Circuit zéro déchet, l'Association québécoise zéro déchet, Montréal Métropole en santé, puis ça a été validé aussi par la Direction de la santé publique du CIUS, du centre sud de l'île de Montréal. Donc, on voulait s'assurer que ce qu'on proposait là-dedans était valide, surtout dans ces temps de pandémie. Mais ce qu'on voulait proposer, c'est vraiment des solutions pour le réemploi dans l'alimentation. Donc, ça a été un peu pointé du doigt au début de la pandémie. Donc, rapidement, des cafés ont décidé de ne plus accepter des tasses réutilisables, par exemple, alors que c'est tout à fait possible d'avoir des processus sanitaire avec des objets réutilisables. C'est vraiment une question de procédure, de manipulation, de désinfection. Puis, finalement, c'est même plus facile de désinfecter ou de rendre sanitairement à moindre risque un objet qu'on peut nettoyer, alors que l'usage unique ne le permet pas tout le temps. Donc, on voulait vraiment proposer des solutions pour ça. Puis, ça a un impact positif aussi sur les commerces en alimentation. Quand les gens amènent leurs propres contenants, ça réduit aussi les coûts en termes de contenants d'emballage pour le commerce, alors que et dans un contexte où plusieurs sont dans des situations financières qui sont difficiles. Donc, c'est aussi gagnant pour l'environnement et pour l'économie.
Alors, ça s'appelle, c'est un guide, c'est le premier guide québécois sur la réduction des déchets à l'attention des commerces, des restaurants, des cafés, mais aussi, donc, qui enligne beaucoup les clients sur les bonnes pratiques. On aura l'occasion de... C'est un magnifique sujet de discussion parce que c'est directement dans nos vies, hein, ce qu'on consomme, ce qu'on peut recycler, réutiliser, les fameux R. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de nous en parler, puis on, bien sûr, vous nous tenez au courant là, des avancées. On suivra de près cette commission parlementaire donc sur la consigne élargie. Amélie Côté était avec nous, spécialiste en gestion des matières résiduelles. Karl Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Je vous rappelle que c'est la semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, quand on voit une canette, on fait comme Karel, on la ramasse, puis on fait notre effort, on flush pas notre soie dentaire. Plein d'affaires comme ça qui sont bonnes pour la planète, n'est-ce pas, les amis?
Exactement.
Merci à tous les deux. Merci beaucoup.
Merci à toi. Bye-bye.
On va s'arrêter ici. Et hey, tout de suite, après la pause, juste un petit point, là, parce que j'ai vu un article ce matin qui m'a comme inquiété, que je lisais que le virus du COVID vit jusqu'à 28 jours sur les surfaces. Je me suis dit, un instant, clarifions la chose pour nos auditeurs. C'est ce qu'on fait tout de suite après.